Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien bonjour les amis, voilà, il est 15h43, nous sommes en direct, vous êtes sur Immo et sur Territoria, ici au 106e congrès des maires de France et le Salon des maires de France. Je vous rassure, j'étais pas là il y a 106 ans, hein. Non, sinon j'aurais de beau reste. Merci d'être, en tout cas d'être avec nous, vous êtes très nombreux à nous suivre, c'est normal, c'est un enjeu important, nous aimons les maires de France. Les maires de France sont les fantassins de la République, ils sont en première ligne vis-à-vis des citoyens. D'ailleurs, vous l'avez démontré vous-même, les citoyens, puisque lorsqu'on vous pose la question sur l'affection que vous avez pour les hommes politiques, ceux que vous aimez le plus, ce sont les maires de France. Il faut le rappeler. Et c'est bien que l'État, parfois, s'en rappelle. On va parler d'un sujet, si vous voulez bien, sur la construction de la ville. La ville se construit, elle se développe, elle se régénère également sur elle-même. Mais de plus en plus, nous entreprenons, en fait, un schéma de durabilité. Pour cela, il nous faut des certifications. Il nous faut des process, il nous faut des chartes de bonnes pratiques. Il n'y a pas photo, on y souscrit tous. Dans un contexte qui est quand même assez contracyclique, c'est-à-dire un contexte de la construction de la ville, et en particulier du logement, à l'instant même où les Français peinent à se loger, une chute absolument vertigineuse, sans quasiment de comparaison. Moi, je suis dans ce métier depuis plus de 35 ans, et j'ai rarement vu une crise du logement neuf aussi violente. On a souhaité réunir des professionnels, justement, de la fabrique de la ville, pour en parler. Merci Bertrand Hérault d'être avec nous.
Merci pour l'invitation.
Vous êtes directeur de l'innovation et de la RSE pour Kaufmann & Broad. Vous représentez donc un acteur majeur de la création de logements et de la fabrique de logements en France. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un homme politique comme on les aime, il est souvent venu sur nos plateaux parce qu'il parle direct et il parle vrai. Il est le président de l'établissement public foncier d'Île-de-France, président de Grand Paris Aménagement, vice-président de la région Île-de-France en charge du logement. Il est également maire de sa ville, une ville extrêmement magnifique. Moi, j'y suis allé à plusieurs reprises. Une très belle ville, c'est la ville de Mennecy. Merci, Jean-Philippe Dugoin-Clément, d'être avec nous.
Bonjour.
Et de nous avoir fait le plaisir de passer par le plateau. On attend beaucoup de vous, hein, dans cette émission, puisque, effectivement, on veut partager avec vous cette vision à la fois de l'immobilier durable, de la construction durable, et où, comment, par exemple, les processus de certification prennent toute leur place. Justement, ça tombe bien, puisque nous avons la responsable des affaires institutionnelles de l'un des certificateurs majeurs dans ce pays, c'est la société Prestataire. Bonjour Justine Frostin.
Bonjour messieurs.
Comment ça va ?
Pleine forme, comme toujours.
Eh bien, je suis ravi d'être avec vous. On va commencer directement, si vous voulez bien, à mettre un peu les pieds dans le plat. Je vais commencer par vous, Bertrand. Vous êtes un acteur majeur du logement. Kaufmann & Broad, c'est une marque, c'est une major, hein, comme on dit dans le métier. La certification des bâtiments, la mise en œuvre de processus de certification pour justement aller vers de la neutralité carbone, vers des bonnes pratiques, vers des matériaux qui sont biosourcés, dont on a la traçabilité, pour le bien à la fois de la planète, des administrés, mais aussi de trouver aussi le modèle économique qui permet de sortir du logement abordable. Logement abordable qui est un des thèmes très chers à Jean-Philippe, justement, dont on va parler. Pourquoi c'est si important pour vous d'entrer dans ces fourches codines malgré un état de crise quand même sévèrement chahuté ?
Alors, il y a plusieurs enjeux dans la certification. On peut rappeler que concevoir un projet de logement, ça reste à chaque fois une opération complexe, un projet de logement ou un projet d'autres produits immobiliers. Et la certification apporte déjà aussi une réponse puisqu'elle induit un référentiel dans le process de conduite du projet ainsi que dans les spécifications du projet. Kaufmann & Broad, nous avons une démarche volontaire de certifier 100% de nos productions. Nous considérons qu'une certification, ça, c'est une forme de checklist dans la conduite du projet. Un pilote d'avion, avant de mettre son avion aux airs, obéit à la vérification d'un certain nombre d'éléments. Et en tant que passager, on n'aurait pas envie qu'il passe trop vite sur la vérification des standards pour bien mener son opération complexe de faire voler une machine un peu compliquée avec un certain nombre d'aléas qui pourraient être à rencontrer. Un projet immobilier, c'est la même chose, et il y a cette dimension checklist appliquée à des projets qui, en plus, ont la particularité d'être systématiquement sur mesure, là où le pilote d'avion a à peu près tout le temps la même machine. Donc c'est un premier atout de la certification, et pour nous, de cette démarche volontaire de certification systématique de tous les projets. Et ensuite, un deuxième niveau, c'est que la certification donne une validation de qualité du produit et de qualité du process par un tiers indépendant. Et donc, cette vision de tiers certificateur, pour nous, est importante dans une optique de transparence vis-à-vis des parties prenantes du projet, nos clients, évidemment, tout autant que les collectivités qui nous font confiance pour
Donc, pour vous, c'est un avantage, c'est pas une contrainte.
Alors, c'est une contrainte qu'on accepte, puisque en contrepartie, on a cette maîtrise du process et puis cette transparence dans l'atteinte d'objectifs. La certification généralisée à tous les projets, c'est un peu les racines qui nous permettent de maîtriser nos process et d'engager un volume considérable, vous l'avez rappelé, d'opérations. Et puis ensuite, dans les certifications, il y a des profils, des thématiques qui permettent de donner des ailes ou des ambitions particulières au projet et d'associer nos parties prenantes dans leur traduction. Ça peut être l'atteinte d'une performance carbone en avance d'une ou plusieurs générations. Ça peut être l'atteinte de mise en œuvre de matériaux biosourcés ou d'autres éléments caractéristiques du programme qui ont une importance particulière pour le territoire sur lequel nous intervenons et ou pour nos clients. Et donc, bien maîtriser les process de certification sur 100% de notre production, c'est aussi être à l'aise pour aller plus loin sur certains projets.
On va creuser justement, Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous qui êtes aux affaires et qui connaissez bien, avec une vision également macro finalement sur l'Île-de-France, puisque vous pilotez aujourd'hui Grand Paris Aménagement, vous pilotez l'établissement public français Île-de-France, ainsi que la délégation que vous avez au niveau de la région. Vous êtes également une des forces motrices de l'OIN de Sénart, qui est un vaste projet aussi de développement. Quelle contribution, pour vous, du point de vue des collectivités locales, vous avez justement dans la mise en place de ces certifications, puisqu'on voit bien que les élus locaux, en fait, adoptent ces standards, ces process, ces référentiels, qui permettent d'atteindre le niveau de qualité que vous souhaitez pour la fabrique de la ville?
Des garanties. C'est des garanties de qualité, c'est des garanties de niveau de prestation. Et c'est un moyen de travailler essentiellement sur l'acceptabilité d'un projet. On se rend compte que l'un des principaux enjeux aujourd'hui, c'est l'acceptabilité de l'acte de construire, de l'acte d'aménager. Alors, il y a 20 ans, c'était l'acte de construire du logement social qui pouvait être polémique. Aujourd'hui, quelle que soit la typologie de construction, elle l'est. Et travailler sur la question de la garantie qualité, la garantie procédé de construction, il y a la garantie qualité à vivre, mais la garantie qualité de construction par rapport à la question des normes environnementales, de la transition environnementale, sur l'un des principaux reproches qui est fait par toutes les oppositions de Français de Navarre à un maire qui bâtit, c'est de dire mais vous construisez, c'est irresponsable, c'est écocide. Non, la ville a toujours évolué, a toujours bougé, elle continuera à vivre. Une ville, c'est comme un vélo, c'est de l'équilibre dynamique. Une ville qui n'avance plus, c'est une ville qui meurt. Il y a des villes qui meurent aujourd'hui. Et une ville qui ne meurt pas, c'est une ville qui se reconstruit, qui se réadapte, qui se réinvente. Et c'est pour nous, élus locaux, un moyen de garantir aux habitants eh bien, que la ville se reconstruit, mais de manière vertueuse, que les modalités d'aménagement ou de construction... Il ne faut jamais cracher sur le passé, parce que ce qui a été fait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, correspondait à
c'est
des besoins, avait le mérite de se faire dans un contexte différent. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus construire comme on le faisait avant. Et donc, c'est un moyen de venir garantir ça. Après, les questions qui peuvent se poser, qui sont un petit peu en dehors de la certification, c'est la question du niveau de normes exigées par rapport à un contexte immobilier qui est totalement sinistré et de la capacité du marché à avaler certaines normes et certains rythmes d'évolution. Mais c'est un peu une question différente par rapport à la certification qui est la garantie que ce qui est fait est bien fait. Et puis on est aussi dans un monde souvent de défiance, souvent de mise en cause, d'interrogation. Pouvoir avoir des certifications par des tiers, c'est aussi un moyen de pouvoir apporter un peu plus de garantie, de déconnecter. Ça n'est plus la commune qui est celle qui délivre les autorisations d'urbanisme, ça n'est plus le maître d'ouvrage qui bailleur social ou foncière privée organise les travaux, ça n'est plus l'entreprise de BTP. On sort un petit peu de ça, c'est important.
Pour vous, finalement, quelque part la garantie du tiers de confiance. Le certificateur qui va agir, vous, sous l'angle prisme politique au sein de la collectivité locale, c'est justement ce rapport à la confiance que vous avez avec une charte que vous avez établie, des éléments très précis que vous souhaitez, puisque finalement, les promoteurs privés ou les acteurs publics, en fait, travaillent sur l'empreinte territoriale que vous avez fixée, dont vous avez la vision.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Question, justement, ces normes que vous adoptez, est-ce que aujourd'hui, question libre, est-ce que vous pensez que nous sommes dans une inflation normative qui mériterait peut-être, à l'instar d'une crise très dure qui touche les promoteurs, hein. Je regardais encore les statistiques ce matin, c'est une catastrophe, hein. Faut juste qu'on donne un chiffre. Sur 25% des défaillances d'entreprises constatées par la Banque de France hier matin avec les chiffres qui ont été produits, sur 66 000 défaillances, 25% sont issus de la construction et de l'immobilier. On voit bien quand même que c'est un truc. Est-ce que vous seriez favorable éventuellement peut-être à une revisite du pacte de ces normes pour aboutir finalement à la fois sans minorer la qualité de la certification pour justement être plus souple dans la production de logements et de création de valeur?
Mais ce pays crève de normes. Chaque norme a été faite pour une raison vertueuse. Bien, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais l'accumulation de l'ensemble de ces normes fait ce qui est vrai sur le bâtiment. On pourrait en parler sur la restauration, on pourrait en parler sur le traitement des espaces verts. C'est une des raisons de la crise agricole. Ce pays crève de normes. Et à l'heure où le gouvernement, ce qui est normal, cherche des économies plutôt que de faire dans le rabot et l'impôt, qui sont les deux solutions les plus simples, les plus rapides, mais quelque part les plus injustes pour trouver de l'argent, moi, je préférerais qu'on s'attache à la question des normes. Alors il y a la question des normes environnementales, des RE sur la construction. On ne reviendra pas en arrière, mais les évolutions à 2028, etc., on peut se poser la question à quel calendrier et puis quel mode de calcul par rapport aux RE, parce que le mode de calcul fait qu'on suraccentue sur le facteur bois, on aurait pu prendre d'autres choix techniques sur le calcul de la norme. Après, il y a des... Si on prend quelque chose qui est un tabou aujourd'hui, les normes d'accessibilité. Dans quelle mesure un bâtiment public doit être 100% accessible, ou dans quelle mesure pourrait-on se contenter du fait qu'un bâtiment public soit utilisable pour 100% des personnes sans être à 100% accessible? C'est juste la question d'un ascenseur dans chaque bâtiment public. C'est juste la question d'avoir des largeurs de couloirs, des largeurs de portes, des largeurs de sanitaires à tous les étages du bâtiment public sur chaque équipement qui est fait. Mais c'est la même chose pour la construction de bâtiments d'activité ou de logement. C'est des centaines de milliers d'euros de plus à l'investissement et c'est des milliers d'euros de frais de maintenance par rapport à vos ascenseurs chaque année. Et autant le fait qu'il soit inimaginable aujourd'hui de continuer à construire ce qui a pu être fait à des époques, des bâtiments où il n'y a pas d'accès PMR. Sachant que souvent on focalise sur la question PMR, mais l'accessibilité va bien au-delà du PMR. Encore un autre débat. Mais typiquement, c'est une norme sur laquelle on pourrait jouer. La question des normes sur les études faune-flore 4 saisons quand on travaille sur une friche urbaine polluée, qui sont exactement les mêmes normes que lorsque l'on travaille sur un champ en extension urbaine et en artificialisation pure, c'est pas forcément quelque chose qui a beaucoup de sens. Moi, je pense qu'on pourrait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent, sans se renier, en essayant tout simplement d'adapter un peu nos normes.
Merci beaucoup. Justement, c'est intéressant ce que vous dites, puisque ça illustre bien le propos, Justine, sur la raison d'être du certificateur, qui est finalement l'allié objectif des promoteurs privés, mais aussi des collectivités locales.
Tout à fait. Donc je rappelle effectivement l'organisme certificateur. Nous sommes 4 à être accrédités par le Comité français d'accréditation en France. C'est un processus d'évaluation par lequel l'organisme impartial et indépendant vient vérifier que des exigences, des caractéristiques sont bel et bien réalisées sur un ouvrage. Donc c'est vraiment un gage de qualité pour des collectivités qui, en tant que maître d'ouvrage, souhaitent obtenir une labellisation d'une rénovation ou d'une construction de leur bâtiment. Il ne faut pas oublier que la certification permet aussi, dans un contexte compliqué pour les collectivités, d'aller chercher des aides, des subventions. Ça permet également d'en obtenir davantage. Mais à la fois, quand elles sont prescriptrices, c'est vrai que moi, je suis ravie d'être là face à Monsieur Hérault, qui, en l'occurrence, en ce moment, on a 4 000 logements en cours de certification pour Kaufmann. C'est un réel engagement, mais également en face de Monsieur Dugouin-Clément, qui, là, je parle au maire de Mency, et qui, je sais aussi, a œuvré sur la partie environnementale avec la signature du SDRIF au mois de septembre. Si vous axez sur ces thématiques-là, c'est aussi pour améliorer la qualité de vie des Franciliens demain. Je crois que l'ambition, c'est 70 000 logements. 70 000. Voilà. Et le certificateur, il est aussi et notamment là pour garantir une qualité globale du bâtiment. Voilà.
Alors, justement, c'est intéressant parce qu'on voit bien finalement qu'il y a une réunion d'intelligence autour d'un projet commun et d'une vision commune. Est-ce que l'élu local est aussi le pivot de cette vision-là à l'échelle finalement de département, de région, mais aussi de questionnement institutionnel posé par des problèmes budgétaires qui amènent à rebattre? Aujourd'hui, il y a une doxa en ce moment qui est celle de dire il faudrait peut-être qu'on redonne du pouvoir au maire. Enfin, ironie du sort, hein. On retrouve la vertu du maire, in fine, lorsque le pays est en grave, grave difficulté. Parce que ce qui est quand même pas croyable, Jean-Philippe, mais on en a souvent parlé ensemble. On a un état donneur de leçons, de règles de gestion qui est chroniquement déficitaire. À vous, les régions, les départements, les maires, qui avaient l'obligation d'avoir un budget à l'équilibre. Pas très simple hein, de naviguer dans tout cela. Sur cette question, justement, de l'aménagement du territoire, de cette vision, c'est vous qui la portez, qui devez la porter.
C'est déjà le cas. Les normes d'urbanisme, les schémas d'urbanisme, vous l'avez dit au sujet avec le SDRIF, mais pour les régions, c'est les SRADET en dehors de l'Île-de-France. Les normes d'urbanisme sont mises en place par la région et le droit du sol est géré par le bloc communal, commune ou agglomération. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de la dépossession des communes de ce droit du sol dans un certain nombre de cas. Mais l'acte de construire, l'acte de bâtir, l'acte d'aménager, c'est pour moi l'essence même de la compétence communale. Et c'est l'exercice ou le non-exercice de cette compétence qui fait qu'une commune vit, se développe ou au contraire se resserre, se rapetisse et meurt.
Alors, oui, vous voulez ajuster juste.
Oui, je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez tous les deux. C'est vrai que typiquement sur l'Île-de-France, on observe nous aussi en tant que certificateurs, on a des maires qui vraiment impulsent. L'Île-de-France est quand même une région locomotive hein, pour la France et pour l'Europe. Mais on a aussi des maires qui impulsent, qui demandent aux acteurs, que ce soit des acteurs privés ou des bailleurs sociaux, de la production, qui flèchent avec des thématiques environnementales à cibler, mais qui donnent une souplesse aussi aux acteurs pour ne pas justement avoir un effet contre-productif et trop, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, trop de normes. Ça crée un effet sandwich en fait avec des chartes qui imposent des choses, avec des délégataires à la pierre qui en imposent d'autres. On se retrouve avec une multitude d'exigences demandées par différentes parties prenantes et finalement les opérateurs se retrouvent un petit peu perdus ou n'arrivent pas à atteindre ces ambitions. Les communes qui s'engagent effectivement en demandant la réalisation de logements avec des thématiques à atteindre, ça challenge à la fois les opérateurs du privé et du public, mais ça leur donne la flexibilité d'aller chercher des exigences au-dessus de la réglementation environnementale, et en intégrant la certification, ça leur permet aussi d'être sûr que ces exigences sont bel et bien atteintes.
Un commentaire, alors c'est intéressant ce que vous dites, puisque trop de normes tue la norme, on est d'accord là-dessus. Et puis parfois, effectivement, alors c'est normal, on peut le comprendre, hein. Chaque département, chaque collectivité locale y va de sa propre charte. Hein. Moi, je fais le Tour de France quasiment toutes les semaines. On a toujours un maire bien placé qui a monté sa charte, qui a fait son... Bon. Moi, j'ai envie de vous poser la question. C'est cette question, justement, de la volonté des élus d'avoir une charte de bonne pratique, mais aussi du choix des intervenants, puisque on le voit bien, aujourd'hui, il y a plusieurs certificateurs. Vous avez dit qu'il y en avait quatre. Hein,
il y en a trois sur le logement et nous sommes deux sur le tertiaire. On fait les deux.
Voilà. En général, est-ce qu'un élu, finalement, choisit unilatéralement le même certificateur ou est-ce qu'il a la possibilité de fixer un cadre global dans lequel, il, peu importe le certificateur, pourvu qu'il aujourd'hui soit conforme à l'état que moi je propose dans ma charte, comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que vous, par exemple, à la région, vous dites voilà, ben, vous dites pour tel ou tel projet, ben, je veux tel certificateur, je veux tel truc, ou simplement vous voulez juste vous assurer que les process soient bien remplis?
Non, la région n'a pas de compétence en ce domaine. Là, ça va vraiment être la question de l'exercice du droit du sol, donc la commune ou l'agglomération, si on est en transfert du droit de l'urbanisme, ou alors potentiellement d'aménageurs qui ont une délégation. Alors, ensuite, c'est la question d'un tiers de confiance. Donc à partir de là, un tiers de confiance, bah, il est choisi, il est retenu, soit... c'est une discussion ou un accord entre le donneur d'ordre public et l'opérateur privé ou aménageur. Voilà, mais encore une fois, ce qui, au-delà de ça, au-delà de cette certification, de la qualité, de l'ambition qui a été prise, ce qui, moi, me semble extrêmement important, c'est quelle est l'ambition portée par une commune. Une commune, et encore une fois, je ne suis pas un fanat des chartes, promoteur des chartes aménageurs, je considère que c'est beaucoup de vent et que c'est essentiellement quelque chose qui est de la politique interne pour expliquer à ses électeurs qu'on s'occupe de ce qui se fait, mais qui n'a aucune valeur juridique ou légale. Et vous n'avez pas forcément besoin, quand vous instruisez un permis de construire, avec un travail amont en général qui est fait, d'avoir une charte pour pouvoir dire tel type de matériaux, je n'en veux pas, tel type de process constructif, je n'en veux pas, ou au contraire, j'attends... balcon, des logias, pas de balcon de surface inférieure à tel... Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une charte pour ça. La charte, c'est du marketing électoral local, pour moi. Et de ce point de vue-là, bon, alors après, on peut dire ça a le mérite d'être écrit et comme ça. Ce qui est important, c'est la question de dialogue. C'est la question de commande politique. Quand vous avez une commune, soit qui refuse tout aménagement, soit qui n'a pas ce que j'appelle des communes un peu ventre mou, qui n'ont pas de colonne vertébrale, qui n'impose pas, dans le cadre d'une discussion avec un bailleur social, avec un promoteur, avec un aménageur, ce qu'il veut, bah, la nature aura du vide. Donc, effectivement, ça va être le bailleur social, le promoteur, l'aménageur, qui va faire, alors qui fera, et c'est pas un reproche, mais souvent au plus simple, pour le coup, parce que si on lui demande rien, bah, il ne va pas les réinventer, il ne va pas aller se challenger. Et donc, même s'il y a une individualisation à chaque projet, on va être sur quelque chose d'un peu plus report ou mécanique, où on va chercher, bah, pas forcément à faire ce qui peut coûter plus cher ou qui est plus complexe techniquement ou qui est moins essayé. Et donc, ce qui est important, c'est cette question de dialogue. La certification, c'est ce qui vient attester que l'ambition a été tenue. Mais... c'est un petit peu la phase, c'est la phase d'achèvement, c'est la garantie du parfait achèvement, d'une certaine manière.
Un commentaire, Bertrand ?
Oui, on peut souligner qu'un référentiel de certification, c'est d'abord la garantie d'un standard de qualité, un référentiel comme celui de prestataire, par exemple. Ça doit être 30, 40, 50 thèmes qui peuvent être communs à un projet. Et ça, pour nous, c'est les racines d'un standard de qualité. Et puis ensuite, ça peut être des profils particuliers.
Vous permettez une question complémentaire ?
Bien sûr.
Pourquoi vous avez choisi prestataire ?
Alors, nous, on fait certifier tous nos projets par un tiers indépendant accrédité COFRAC. Il se trouve qu'une partie de notre production est certifiée par prestataire, sans nécessairement qu'il y ait d'exclusivité. Et donc, ça fait partie des acteurs avec lesquels on collabore. Ce qu'on a choisi, c'est vraiment d'avoir une certification attachée à tous nos projets pour avoir ce référentiel de qualité dans notre process de conception, production du projet. Et puis pour aller plus loin, à côté de ce standard de production dans lequel on retrouve chez le certificateur différents éléments que nous avons volontairement appliqués à notre production, on peut définir avec les collectivités des ambitions complémentaires ou des profils supplémentaires qui viennent qualifier l'opération par rapport à son contexte et aux attentes d'un territoire et ou d'un client. Et donc il y a vraiment ces deux. Cliquer dans la certification, un process qualité global, et puis une ambition et l'attestation par un tiers indépendant d'objectifs. Alors ça peut être sur le carbone, être en avance de phase, idéalement en laissant à l'acteur économique les leviers d'action pour choisir le chemin par lequel il souhaite atteindre l'ambition qui est donnée et attestée. Ça peut être des objectifs en faveur de la biodiversité, une ambition de réduire l'imperméabilisation des sols, de reconstituer les trames vertes, une ambition sur le cycle de l'eau. Et donc la certification a cette double possibilité, un standard élevé et puis la possibilité de souligner des enjeux particuliers au projet. Et donc on fait à la fois du général sur notre production et puis du particulier pour vraiment insérer et faire approuver nos opérations en fonction des contextes dans lesquels elles se développent.
Dans l'absolu, les collectivités locales peuvent demander aux certificateurs aussi de respecter un certain nombre de points, voire même de réfléchir sur de nouveaux référentiels aussi. Ça peut être le cas, Jean-Philippe ?
Oui, c'est un outil. Après, ça va dépendre de la taille de l'opération. C'est comme tout. C'est le plus l'opération est importante, le plus ça peut justifier, puis ça peut créer une réalité économique pour le demander. Mais oui, c'est un outil à l'usage des collectivités, bien sûr.
Justine ?
Par rapport à ce que vous disiez, et je souhaitais rebondir, effectivement, typiquement, la ville de Paris a fait appel aux certificateurs et on a répondu présent par l'établissement d'un profil. L'objectif de la ville de Paris, c'était pouvoir flécher une aide dans la subvention et la construction avec des thématiques à atteindre. Et après, l'opérateur, effectivement, choisit le certificateur qui lui permet, effectivement, de l'accompagner dans le processus de certification. Donc, cette flexibilité donnée par la ville de Paris avec, par contre, effectivement, des thématiques qui doivent être traitées, je crois que c'est le bon compromis aussi pour que chacun y trouve son intérêt. La collectivité pour pousser des thématiques, challenger les acteurs sur son territoire. Et pour les opérateurs, donc les bailleurs sociaux et les promoteurs, également d'anticiper aussi les niveaux futurs, parce que Monsieur Dugouin, Clément en a parlé tout à l'heure, la RE 2020 est là, les niveaux 2025, 2028, 2031 sont également là, et certifier, c'est aussi anticiper les futurs niveaux réglementaires.
On est d'accord que tout est certifié aujourd'hui, Bertrand Leroux ?
Oui, tous les projets que nous lançons s'inscrivent dans une démarche de certification.
Bon, je vous pose pas la question, je pense que c'est le cas également pour tous les projets de la collectivité locale. Merci à tous les trois. Je voudrais qu'on parle maintenant d'une situation, on va dire, un peu plus politique, si vous voulez bien. Et je vais m'adresser à Jean-Philippe Dugouin-Clément, parce que je ne peux pas louper, il est là, hein, sur le plateau, donc je voudrais avoir son avis. À l'heure où on parle de l'examen de loi de finances sur ses contours, un projet de loi de finances extrêmement décevant, c'est le moins qu'on puisse dire, et je reste poli, je vais essayer. Je le serai un peu moins vendredi matin sur BFM Business. Augmentation de 0,5% des droits de mutation à titre onéreux pour des départements dont c'était la demande. Et au sein des départements, nous avons les élus locaux, bien évidemment. Les élus locaux qui disent aujourd'hui on est à l'os, on est exsangue, on nous a transféré des compétences sans y associer les recettes. Je prends le cas pour les départements, par exemple, du RSA et d'autres actions qui étaient quand même du domaine de l'État. Avec un État donneur de leçons qui lui-même est chroniquement déficitaire, où le coût de la dette atteint des volumes inquiétants et même astronomiques, et on demande aux élus locaux de faire l'effort à la place finalement d'une certaine mesure. Cet État central, cet État jacobin, qui commence finalement à voir les limites de son exercice, puisque justement il n'y a plus d'argent, commence à vous faire réagir quand vous voyez ça. Et puis première question, alors c'est vrai que c'est une question de journaliste. Pour ou contre l'augmentation des DMTO, Jean-Philippe Dugouin-Clément ?
Contre.
Contre, merci. Merci. Vous avez entendu ça, les amis ? Voilà, un élu, il est là, c'est Jean-Philippe Dugouin-Clément. Merci de le dire. Pourquoi ? Dites-nous un peu.
Les départements sont exsangues aujourd'hui. Oui. Donc il y a une question, enfin on paye, et ce n'est pas le fait de Michel Barnier ou de qui que ce soit aujourd'hui, on paye les réformes sur les sources de recettes des départements qui ont été faites quelques années en arrière, qui font qu'aujourd'hui les départements ont des dépenses obligatoires, notamment en matière sociale, qui ont été augmentées au début d'année, notamment sur l'aide à l'enfance, mais où dans le même temps, elles n'ont plus aucune recette sur laquelle ils aient un levier. La seule recette, c'est les DMTO, ils sont déjà quasiment tous au maximum de ce qu'est la fourchette autorisée. Déjà. Plutôt que de chercher un type de recette autre, on vient dire on va augmenter les DMTO. Qu'est-ce qui fait que les départements ne bouclent pas ? Les dépenses obligatoires et l'effondrement des DMTO depuis 2 ans qui constituent une part de recette. Donc d'une part, pour moi, c'est quelque chose qui est assez vide parce que quand vous faites 3 fois 0 égale 0, et donc en fait, on va augmenter un pourcentage sur une taxe qui ne rapporte plus parce que le marché étale, et le problème, c'est de relancer le marché, pas forcément de remonter les DMTO, d'une part. Et d'autre part, on connaît la pire crise du logement depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. On va contribuer à renchérir le coût du logement. Et donc, y compris si on dépasse le montant colossal, mais enfin quand même, 1 000 euros de plus sur un achat d'un bien à 200 000 euros.
Pour un primo accédant, c'est insolvabilité.
Ça contribue à venir gripper le marché. Donc je pense que c'est une mauvaise solution. Qu'il faille trouver des solutions pour les départements, c'est une évidence. Mais je pense que les DMTO, c'est une mauvaise réponse à une vraie question.
La question sur l'élargissement du PTZ,
100% favorable.
100% favorable. Dernier point, justement, sur le dessin qui consisterait enfin, peut-être, à essayer de redonner. Alors, c'est pour l'instant, on en est au stade du discours. De renforcer le pouvoir des maires, vous êtes évidemment pour, mais comment vous envisageriez, vous, des relais, des leviers fiscaux ou de recettes nouvelles pour les collectivités locales où il reste plus grand-chose ?
le premier levier, indépendamment de lever de nouvelles taxes, parce qu'on est déjà dans un pays qui est surimposé, c'est-à-dire qu'il faut lever de nouvelles taxes, que vous soyez commune, agglomération, département, syndicat, je pense qu'on a une question, on a un millefeuille, il faut avoir le courage de dire il faut qu'on réduise ce millefeuille, parce que c'est générer des surfrais de structure. La deuxième chose, c'est là encore, c'est de la simplification de normes. En tant que maire, on avait la question des normes sur le bâti que nous payons, mais enfin, on paye des normes à longueur d'année. On pourrait peut-être se poser la question d'en simplifier quelques-unes sur, c'est pas forcément dans l'air du temps, mais quand on parle de restauration scolaire, quand on parle d'un certain nombre de normes sur de l'encadrement, sur certains types d'aménagement, on pourrait déjà avoir cette logique-là d'essayer de donner un petit peu de marge pour faire des économies. Les maires, c'est les premiers à vouloir faire des économies, en faire au quotidien. Bien souvent, on nous empêche d'en faire, ou on nous impose des dépenses nouvelles.
Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Philippe, j'ai encore deux questions, mais celle-ci, c'est vraiment de sensation, de dire à l'État, ça, stop, on en a marre, vous allez arrêter maintenant. Là, on est au bout du bout, quoi. Au lieu d'aller chercher toujours le consensus, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un peu... Alors, je sais que ça n'arrange pas grand-chose, mais de dire, écoutez, vous nous gonflez là, stop, vous allez arrêter, et ensuite, on va réfléchir pour vous aider, parce que, in fine, ce sont vous, les Français, qui allez payer l'addition des dérives budgétaires de l'État. On est d'accord.
La réalité, c'est qu'il est souvent plus facile pour l'État de faire des économies avec le portefeuille des autres. Et faire des économies avec le portefeuille des collectivités en général et des communes en particulier, c'est une solution comme une autre, qu'elle mérite de faire porter l'effort sur d'autres que sur soi-même, et puis qui a un autre avantage par rapport à des dépenses qui vont avoir trait au domaine social, au domaine culturel, aux compétences de l'État, c'est que les maires ne sont pas des révolutionnaires. Quand vous faites des sondages et que 40 ou 50% des Français vous disent « oui, il n'y a qu'à faire des économies sur les collectivités », la réalité, c'est où est-ce qu'on fait des économies dans les collectivités ? On facture 10 euros le tarif de le plat de cantine, ce qui est le coût réel, là où les communes facturent entre 50 centimes à 6 euros. On facture 10 000 euros de plus par an aux familles, un berceau de crèche, c'est le montant du déficit, indépendamment de ce que paye déjà la famille. La réalité, c'est que c'est des services du quotidien. D'une certaine manière, c'est ça qui n'est plus entendable aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que les maires n'étant pas des révolutionnaires, ils ne vont pas fermer les mairies, on ne va pas aller fermer les écoles, on ne va pas aller fermer les crèches massivement, vous en aurez deux ou trois qui le feront.
Mais quand on manifeste,
c'est très bien. On était hier avec des collègues avec des écharpes noires. Très honnêtement, quand vous faites un budget depuis de Bercy, vous n'en avez strictement rien à cirer, si vous me passez l'expression. Vous n'allez pas avoir, contrairement aux agriculteurs qui vont bloquer des autoroutes, des maires qui vont remonter avec les camions municipaux pour bloquer Paris. Le maire n'est pas un révolutionnaire parce qu'il est pris avec une logique de responsabilité, et donc le fait de demander des efforts, y compris s'ils sont injustes, à quelqu'un de responsable, ça fait qu'en général il râle, mais il l'accepte.
Rapidement, 2025 arrive pour la campagne des municipales. Est-ce que Jean-Philippe Dumont-Clément se représente ?
Je me poserai la question en temps et heure. Si c'était demain, je repartirais. Mais vous savez, quand vous vous engagez sur un mandat, vous vous engagez pour 6 ans. Il y a 6 ans, vous, moi ou plein d'autres gens n'avaient pas forcément la même vie. Et la question, c'est de se demander, est-ce que j'aurais encore envie de faire ce que je fais 6 ans plus tard ? Donc se poser la question 7 ans et demi avant, il y a un peu de temps, je me la poserai entre 3 à 6 mois avant.
C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci. Jean-Philippe Dugoin-Clément, président de l'établissement public de France, président de Grand Paris Aménagement, j'allais dire Jean Paris, Grand Paris Aménagement, maire de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France. Merci d'être venu sur le plateau. Un immense merci à Bertrand Hérault, directeur de l'innovation et de la RSE de Kaufmann & Broad, la major de l'immobilier. Effectivement, grâce à vous, vous produisez du logement et du logement abordable. Merci d'être venu sur le plateau.
Merci beaucoup.
De Radio Immo. Un immense merci à Justine Constant.
Merci
Justine, qui nous a éclairé sur justement le rôle des certificateurs et de tous les certificateurs, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et le choix que vous faites, justement, qui répondent à des cahiers des charges extrêmement précis pour le bien exclusif des Français. C'est bien de ça dont on parle. Prenez soin de vous, on se retrouve dans quelques instants.
Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.